Comment Kant a-t-il critiqué la raison ? S'il y a un titre célèbre en philosophie, un titre fascinant à la fois qui attire et qui repousse en quelque sorte les étudiants et tous les amateurs, tous ceux qui ont un contact avec la philosophie occidentale en tout cas, c'est bien le titre du grand livre d'Emmanuel Kant en 1781, La critique de la raison pure. On oublie d'ailleurs souvent que 7 ans plus tard, il a publié une deuxième critique de la raison, mais cette fois de la raison pratique, c'est-à-dire de la raison qui n'explique pas seulement le lien entre les choses dans la connaissance scientifique, mais la raison qui explique le lien entre un motif et une action dans la vie humaine. La raison pratique, c'est la manière dont nous justifions nos actions et non pas dont nous expliquons le monde. J'ai fait ceci parce que cela. Et en effet, la raison n'est pas seulement une manière d'expliquer les choses, de créer un lien nécessaire entre des phénomènes, c'est aussi une manière de justifier nos actes. C'est une manière de rapporter nos actes à un motif, à une représentation, à quelque chose dont nous sommes en quelque sorte responsables. Il y a donc chez Kant deux critiques, la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Et il y a une troisième critique qui ne porte pas sur la raison et dont on aura peut-être le temps de dire un mot en terminant. Mais d'abord, il faut comprendre ce que veut dire la critique de la raison chez Kant en général. Le terme est très simple à comprendre. Critique, chez lui, ça ne veut pas dire abandon de la raison. Ça ne veut pas dire renoncement à la raison. Comme s'il y avait justement d'un côté deux extrêmes, les philosophies rationalistes qui posent un ordre nécessaire des choses et de l'action, des motifs nécessaires pour notre action en général, un motif qui explique tout dans le monde et dans notre vie, d'un côté, et d'un autre côté, des critiques radicales de la raison, par exemple le scepticisme de David Hume qui pense qu'il n'y a rien de nécessaire dans le monde, ni dans notre action d'ailleurs, toujours du relatif, dans le monde, ce sont des inductions plus ou moins causales. Je sais que jusqu'ici, le soleil s'est toujours levé le matin, mais rien ne me prouve que c'est nécessaire. Et d'autre part, je sais que telle action est un peu meilleure qu'une autre, mais un bien absolu, Hume hésite à le justifier rationnellement. Alors Kant refuse aussi ce qu'il appelle ce scepticisme, il refuse le dogmatisme. Et chez lui, le mot critique désigne très précisément le fait de faire la part des choses. Il y aurait chez lui une part de la nécessité, une part à faire dans la connaissance du monde comme dans l'action pour une nécessité. Mais alors une nécessité absolue, partielle, mais absolue. Et quel est ce fondement de la nécessité chez Kant ? Bizarrement, c'est justement un fondement subjectif. C'est pourquoi le mot raison chez lui abandonne la prétention métaphysique à être la raison du monde, la raison de l'univers, le logos incarné des stoïciens par exemple, ou de Leibniz encore, la raison divine. Non, la raison n'est plus que subjective, mais là, elle se délimite. Il y a une nécessité dans la science, à condition de se limiter au phénomène que la raison humaine peut aborder, aux phénomènes empiriques et ne pas remonter à l'absolu des choses, la raison se met à délirer, dit Kant, lorsqu'elle veut aller au-delà des limites de l'expérience, lorsqu'elle veut expliquer l'origine du monde, par exemple. Et surtout, dans la raison pratique, la nécessité dans la raison, c'est le devoir pur, c'est le fait d'obéir à l'impératif absolu selon lequel les actes que je commets, que j'accomplis, doivent être universalisables rationnellement, sinon ils sont mauvais. Ainsi, je ne peux jamais mentir, par exemple, parce que si je l'universalise, on n'a plus confiance dans le langage. Mais il n'y a pas de bien transcendant, il n'y a pas de souverain bien, il n'y a pas une transcendance. C'est dans notre raison que nous trouvons la nécessité des choses.